C'est des tout petits bouts, ça.
C'est des grosses galettes.
C'est pour moi, ça. C'est pour moi, ça.
Ici, le monde. Un accueil citoyen.
On va manger comme ça.
Caroline.
Deuxième partie.
C'est pour qui?
Catherine.
C'est pour qui?
Odile. Odile.
Ça fait trop pour Odile.
Yann l'aidera. Dis donc, sympa.
C'est pour qui?
T'as pas de
surprise. Yousra.
Yousra.
Oui.
9 mois après l'arrivée de Yousra, Mohamed et Mustapha, nous sommes invités chez eux à manger une galette des rois. Mustapha, sous la table, distribue les parts de galettes. Yousra et Mohamed ont désormais leurs papiers. Ils ont obtenu la protection subsidiaire. Quelque temps plus tard, je les rencontre avec Hicham qui traduit la conversation. J'apprends que Yousra vient de Homs et son mari de Damas. Leur fils est né en mars 2011, soit juste avant le début de la révolution. Yousra ne tient pas à se remémorer ses dernières années en Syrie. Elle veut tourner la page.
Il est né, Mustapha, il est né le 11, combien?
Le 11-3-2011.
Et après, la guerre a éclaté. Feu d'artifice, Mustapha.
Quand la guerre a éclaté en Syrie, je ne veux pas en parler en détail. Il y a eu beaucoup de crimes et nous sommes partis au Liban. À cause des bombardements, nous sommes d'abord partis vers un endroit qui s'appelle Soueda. Et nous sommes restés là-bas 8 mois avant d'aller au Liban. Mais les dates, tout ça, je ne veux pas m'en souvenir. Au début, on avait peur de venir ici. Mais finalement, au milieu des Français, je me sens mieux qu'avec des Arabes. Parce que dans le monde arabe, la culture, c'est que le médecin, il reste dans son coin. Le prof, il reste dans son coin. Alors qu'ici, le médecin, c'est un parmi des autres. Ici, les gens sont modestes, aimants et respectueux. Mon pays n'est pas mauvais. C'est Bachar al-Assad qui est mauvais, notre président. Je ne veux pas dire du mal de mon pays. Le problème, c'est ce qu'il est devenu à cause de Bachar al-Assad. Les gens n'étaient plus reliés entre eux. Celui qui avait un peu d'argent ne se souciait plus du pauvre. Il n'y avait plus d'entraide. Nous, le peuple syrien, on est un bon peuple. Pourquoi est-ce qu'on est devenu comme ça en temps de guerre? Aujourd'hui, les choses vont bien. On s'est apaisé. On est heureux. Mais si quelqu'un vient me demander ce que j'ai vécu en Syrie, je ne veux plus m'en souvenir. C'est mon pays et je continuerai à l'aimer. Et j'élèverai mon fils à l'aimer. Mon destin est d'y revenir, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'en souvenir. Car il y a eu une guerre effroyable. Et quand nous sommes partis, on marchait entre les morts pour pouvoir fuir vers le Liban.
Dans mon café.
Ça, c'est une spécialité syrienne aussi?
Oui, siksé. Oui, le nom siksé. Oui. Ça a beaucoup de choses. Chocolat, et noix, et beaucoup de choses. Et biscuits.
Samar et Zahir étaient commerçants en Syrie. Ils sont eux aussi originaires de Damas et sont arrivés dans la Drôme en 2018, soit quelques années avant Yousra et Mohamed.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de la cuisine syrienne?
بتميز المطبخ السوري بالتوابل وبالتشكيل بالأكل.
Ce qui rend la cuisine syrienne particulière, ce sont les épices et comment les différents ingrédients sont agencés. Et surtout la générosité de cette cuisine, la viande, le beurre. La personne qui cuisine doit aimer les personnes pour qui elle cuisine, que ce soit sa famille, son époux, ses invités. C'est le secret de la bonne cuisine.
Nous sommes de la capitale, de Damas. Samar vient des vieux quartiers de Damas. Damas, c'est une très vieille capitale à la rencontre de plusieurs civilisations. Les épices venaient de l'Inde, d'autres d'Iran, d'autres du Maghreb, et tous se rejoignaient à Damas. C'est pourquoi cette cuisine est particulière. Damas est une très vieille capitale. Ses racines remontent à plus de 7000 ans. Il y a des vieux souks, d'autres plus modernes. En 2010, il y avait à peu près 10 millions d'habitants à Damas. Et c'est beaucoup agrandi. J'ai vécu dans cette belle ville, dans un quartier qui s'appelle As-Salihiya. Ensuite, j'ai déménagé dans la région de Barça. Après le bac, j'ai fait 2 ans de commerce bancaire. J'ai eu une belle enfance. C'est un beau pays avec plein de régions touristiques et des régions avec des monuments anciens. Il y a une région touristique à côté de la rivière Barada qui ressemble beaucoup à la Drôme.
4 saisons, 4 fossiles, comme en France.
C'est un bon pays. L'air était propre, l'eau était bonne. La vie n'était pas chère globalement, on avait une belle vie.
Je vivais au centre du vieux Damas, qui à l'origine était constitué de petites habitations qui se sont modernisées et qui se sont agrandies. Je vivais au centre des 7 portes du vieux Damas, vers la porte de Jabiyeh. Les habitants de Damas sont simples. Ils ont de l'honneur. Ils aiment les visiteurs. Ils aiment recevoir. Ils aiment le commerce. Avec la guerre, le nombre d'habitants a beaucoup augmenté, à la limite de l'étouffement. Dans la banlieue, malheureusement, il y a eu beaucoup de bombardements. Il y avait des problèmes des deux côtés. Je ne veux pas trop parler politique. Tous les habitants des quartiers bombardés qui ont subi des dégâts venaient vers Damas Centre. C'était le sanctuaire, le seul refuge pour tous ces gens. Et le prix de la vie, et surtout le prix des logements, a augmenté d'une façon folle, particulièrement dans la vieille capitale. J'ai appris le commerce et j'ai loué une boutique pour moi seule. À peu près tous les 5 ans, je changeais de boutique. J'ai travaillé dans les vêtements, dans différentes régions, puis j'ai loué une boutique au cousin de Zahir. Zahir était mon voisin. On est restés 7 ans voisins. Avec les événements, j'ai eu des problèmes psychologiques. Quand j'entendais les bombardements, mes mains et mes pieds tremblaient. J'étais triste et je ne supportais pas ce qui se passait entre les gens du pays. Alors je suis partie au Liban, où j'ai travaillé comme cuisinière dans une famille. Depuis toute petite, j'ai travaillé jusqu'au jour où j'ai quitté la Syrie. J'ai travaillé et je ne suis pas restée sans travail. À la dernière période, à Damas, ils ont cassé le mur de ma boutique. Ils ont volé plein de choses. Ils sont passés dans la boutique de Zahir aussi. J'ai fermé ma boutique. Toutes les boutiques de la rue ont fermé à cause du couvre-feu. Je suis restée 3 ou 4 mois à la maison. Je n'avais plus d'argent. Et surtout, je n'ai pas supporté les bombardements. J'ai vu des choses qui m'ont fait beaucoup de mal. C'est pour cela que je suis partie. Le Liban, c'était le pays le plus proche, le choix de départ le plus facile pour ceux qui n'avaient pas d'argent pour prendre l'avion. On a vécu au Liban, des choses amères, d'autres moins amères, et aussi de bonnes choses. Les Libanais nous ont accueillis avec amour parce qu'on allait leur louer leur maison. Ce n'était pas gratuit. Je suis restée 7 ans sous une tente. Personne ne voulait faire travailler mon mari parce qu'il avait une déficience auditive. 9 ans plus tard, j'ai pu lui faire poser un appareil. J'ai travaillé dans une ferme pour produire des légumes et après dans des maisons. Puis j'ai travaillé dans une association syrienne qui distribuait de l'aide alimentaire aux réfugiés syriens. Les gens pour qui je travaillais ont beaucoup apprécié mon travail. Alors, ils m'ont donné la responsabilité d'un projet de pain. J'étais responsable d'acheter la farine, de payer les gens, tout ça. Après, j'ai travaillé avec une équipe française dans un grand projet d'agriculture. Je suis restée 3 ans avec l'équipe française. Puis je suis partie à Beyrouth. Là, j'ai travaillé dans une équipe américaine, dans une boulangerie de pain français et américain au Liban. J'ai beaucoup souffert là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus.
En 2011, c'était très étrange. Les choses se sont embrouillées, mélangées, très vite, au point qu'on ne savait plus qui avait raison et qui avait tort. À la télé, tu voyais des choses, et dans la réalité, autre chose. L'évolution a été très rapide. Au début, c'était des manifestations. Après, c'est devenu des échanges de tirs et des bombardements. C'est devenu beaucoup plus dangereux. Et puis, il y a eu la fermeture obligatoire des boutiques. Il est arrivé un moment où tu devais choisir. Est-ce que tu es avec le régime ou avec les autres partis? Nous, on préférait rester neutre. On ne voulait participer ni au massacre, ni à la détérioration. En fin de compte, c'est notre pays. En 2013, j'ai quitté la Syrie, bien sûr, pour les mêmes raisons que Samar. Il n'y avait plus de travail, on ne pouvait plus gagner notre vie. Et la peur augmentait de jour en jour.
Atelier d'apprentissage du français par le théâtre.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Yousra.
Où habitez-vous?
J'habite à Di.
Et de quel pays venez-vous?
Je viens de Syrie.
Bravo, vraiment, ouais, mais super. Et depuis combien de temps êtes-vous en France?
Un an.
Je suis en France depuis 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 un an.
Encore?
Je suis en France depuis un an.
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 Bravo, super. Et comment êtes-vous venu en France? Comment?
À l'avion.
En avion?
En avion. Je suis.
Je suis.
Je suis
venu.
Je suis venu en France en avion.
Bravo. Bravo.
Je suis un homme. Je suis en France depuis un an.
لما رحت على لبنان رحت على الأساس اشتغل عند وحدة بس بالطبخ وكان هالشي صعب علي لأنه أنا معلمة كان عندي بوفيهات.
Quand je suis arrivée au Liban, j'ai travaillé chez une personne en tant que cuisinière, ce qui était très dur pour moi. Avant, j'étais indépendante. J'avais des filles qui travaillaient avec moi. Je faisais des buffets pour les écoles, tout ça. Et cette personne a commencé à me faire faire aussi le ménage et le nettoyage. Elle a été très dure. Elle ne me donnait pas mon salaire. Je suis partie. Après, j'ai pris une place sur un marché. Je vendais des vêtements. Au début, la location coûtait 200 euros. Au début, c'était dur. Mais après, les choses se sont améliorées. Je suis restée 2 ans. Et au bout de 2 ans, quand le propriétaire de cet emplacement a vu que ça marchait bien, il l'a repris. Ensuite, j'ai loué un local près de Sabra. C'était plus difficile. Et dans cet endroit, j'ai vendu des vêtements de seconde main. Là, ça marchait mieux. Des vêtements de seconde main, mais de très bonne qualité.
Quand il a commencé à y avoir beaucoup de réfugiés syriens au Liban, et que les prix ont augmenté, les possibilités de travail sont devenues très limitées. Avec en plus des problèmes de santé, on a commencé à penser à l'immigration vers la France.
Quand on était au Liban, on nous a demandé de choisir entre l'Italie et la France. Beaucoup de gens nous ont déconseillé de partir en France. Ils disaient qu'en Italie, il y avait beaucoup de musulmans. J'ai dit à l'organisation qui s'occupait de nous qu'on voulait partir en Italie. Ils m'ont expliqué que c'était mieux d'aller en France. Mais moi, j'avais vraiment peur. Quand je suis arrivée en France, j'étais surprise par beaucoup de choses. J'ai retrouvé certains comportements qu'on a chez nous. Par exemple, ils ne gaspillent pas la nourriture. Ils respectent le voile. Les gens, même s'ils me voient avec le voile, me sourient. Ils disent bonjour. Ils respectent les heures de prière quand quelqu'un a envie de prier. Et ils ne m'ont pas obligée à enlever mon voile. Toutes ces choses dont j'avais peur. Je me souviens de mes derniers jours au Liban. Avant d'arriver ici, psychologiquement, j'étais en très mauvais état. Quand on est arrivé à l'aéroport de Paris, j'avais peur de tout. J'avais peur qu'on soit indésirable en France, comme c'était le cas au Liban. J'ai été surprise par un grand groupe de gens, je ne sais pas, peut-être 50 personnes, qui venaient vers nous, vers les réfugiés qui étaient dans la salle de l'aéroport. Chacune de ces personnes tenait une rose. Et quand on s'est approché, ils se sont tous mis à applaudir. Ce moment-là, je l'oublierai jamais. C'était une grande surprise. Ils se sont approchés de nous, ils applaudissaient, ils fêtaient notre arrivée, ils nous offraient des roses. J'ai commencé à pleurer. J'étais très, très, très heureuse. Toute ma vie, je n'oublierai pas ce moment où on a été accueillis en France.
Qu'est-ce que tu as observé depuis quelques années de l'adaptation de ces familles syriennes donc sur le territoire ?
Bon, les jeunes, il n'y a aucun problème. Tous ceux qui arrivent et qui passent par l'école, c'est sur les rails, ça va bien. Les jeunes parents aussi, ils s'intègrent dans le monde du travail sans problème. J'en ai qui font de la plomberie, j'en ai... Enfin, voilà, ils arrivent tous à rentrer dans l'emploi où c'est plus compliqué. C'est les personnes qui sont arrivées avec un certain âge. Au-delà de 50 ans, là, c'est plus compliqué. Alors, ils arrivent à travailler. Ben, on a une famille à Bulles-et-Baronnies, par exemple, où les parents, le papa, il doit avoir 55 ans. Voilà, il fait les olives, des choses comme ça. Il est quand même précaire au niveau professionnel. Il bosse quand même parce que dans la région et par le réseau du collectif, il a trouvé ça, mais ça s'arrête là. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'accueil citoyen, ça va plus vite. Quand tu poses des familles en accueil citoyen, c'est dur pour eux les premiers mois. Moi, c'est ce qui en ressort toutes les discussions que j'ai eues. Parce que vraiment, c'est un changement de monde. Et puis, selon les collectifs, il y a des moments, ça peut être un peu intrusif, ça peut être un peu compliqué, quoi. Mais tous te disent après que ça a été un bon moyen d'intégration.
On est en train d'installer un salon de coiffure.
Regarde.
Mohamed.
Alors, monsieur, je voudrais un shampoing, s'il vous plaît.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je voudrais acheter 10 cuisses de boulet.
Mais enfin,
vous êtes chez un coiffeur.
Et vous ne vendez pas de cuisses de poulet ?
On ne vend pas de cuisses de poulet ?
Non, je coupe les cheveux. Et vous n'avez pas de cuisses de poulet dans votre frigo ?
Non, ça va.
Et
ça.
Vous n'avez pas de cuisses
de poulet ?
Et vous n'avez pas ?
Et on ne mène
pas. Et vous n'avez pas ?
On ne pas.
De cuisses de poulet ?
De cuisses de poulet, ça va.
Dans votre frigo ?
De cuisses de frigo ?
Dans votre frigo.
Pourquoi cette question ?
Parce que je veux des cuisses de poulet.
Cuisses soufflées et des cuisses de poulet.
Parce que je veux.
Parce que je veux des cuisses de poulet. Parce que.
Parce que.
Je veux.
Je veux des cuisses de poulet. Parce que.
Parce que je veux des cuisses de poulet.
Parce que.
Je veux.
Je veux des cuisses de poulet.
Dehors.
Non.
Je veux.
Je vois de cuisses de boulet.
J'appelle la police.
J'appelle la police.
Là.
Je voudrais acheter des cuisses des cuisses de questions.
Des questions.
Je voudrais acheter des cuisses des
travail.
De travail.
Oh.
Oui. Yeah. Et
je voudrais acheter.
J'en ai pas dans mon frigo.
Oui.
Non.
J'ai
pas de cuisses de travail dans mon frigo.
Et je voudrais acheter quoi?
Je voudrais acheter des barlets français.
Je voudrais acheter de parler français.
Oui, ça va?
Oui. J'en ai dans mon frigo.
Non. Et un bon chouette.
Ça va mieux.
L'internet, téléphone.
Ouais, oui. Ah. Le cours de théâtre.
Ouais.
Ah ouais.
Super.
Pour Yusra et Mohamed, est-ce qu'il y a un problème pour... À quelle heure finit Mustapha l'école ?
Rencontre organisée par les couloirs humanitaires avec les familles syriennes de la Goum en novembre 2023.
Eh bien, on va passer à la... On va faire la transition. Maintenant que vous êtes arrivés en France, depuis 1, 2, 3 ans, il y a un moment où ce qu'on appelle la sortie du dispositif, c'est-à-dire que vous commencez à prendre de l'autonomie. Vous commencez à être en règle, chouïa, sur les papiers. Il va falloir changer de logement et devenir réellement vous-même. Donc nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles sont vos angoisses, vos ressentis, comment vous voyez cela ?
هلا انا احنا الخوف عنا هون انا وجوزي وابني انه اذا طلعنا لحالنا والجمعيه ما عاد دخلها فينا هذا خوف انا حابه اضل جنبهم خايفه اضيع لانه البلد مو بلدي وهن صاروا اهلي
alors Yusra dit que sa peur elle est toute simple c'est si elle est livrée à elle-même avec son mari son enfant sans l'association. Elle a peur de... Parce que c'est pas encore son pays. Et il a peur de se perdre dedans, tout simplement. Voilà. Donc, elle exprime quelque part qu'il n'est pas encore prête de se séparer de l'association.
Oui. Parler à Abu Ghab, s'il te plaît. Oui. Après, non, en français, pas de problème. Le fait que le problème est l'ختلاف la vie idéarie entre Syrie et France. الخوف دائما هو من الأوراق المطلوبة بشكل دائم كالكاف غيسا حساب البولنبوا هذه الأوراق والقوانين الجديدة دائما هذه المشكلة يعني اختلاف الحياة الإدارية بين سوريا أو لبنان وفرنسا هذا الخوف دائم أما بالنسبة لأمور السكن الطعام الشراء هذا أمور باتت بديهية أمور فقط المشكلة في الأوراق.
Alors Zahir, il exprime le fait, la seule inquiétude pour lui, c'est au fait la différence entre l'administration française et l'administration syrienne. Pour eux, c'est toujours une source de confusion. Et donc, il y a toujours une peur d'être submergé par toutes les nouvelles lois, les changements, les papiers à faire et tout ça. Par contre, tout ce qui est logement, les courses et tout ça, enfin, la vie quotidienne, pour eux, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal, que ça ne pose pas de problème.
Toujours soit bloqué le CAF, quelquefois bloqué le Pôle emploi. Ça a le problème. Toujours, ça a le problème.
Le principal frein à l'autonomie, vous le dites très bien, c'est pas une fois dans le logement, c'est la langue, c'est d'apprendre la langue et l'écrit. Et c'est l'écrit qui peut... L'écrit, parce qu'on en a besoin pour toutes les démarches. Et c'est ça qui fait frein, à mon avis, le plus longtemps, et qui peut mettre les familles en difficulté, d'où leur inquiétude et leur besoin d'être accompagnées longtemps. Sur 10, il y a des familles qui sont là depuis plus longtemps, qui travaillent, qui ont un logement, qui... Tout se passe au mieux, mais tant qu'il n'y a pas la lecture courante et plus que du déchiffrage, les familles sont obligées de faire appel à d'autres.
Dans la théorie, la sortie de dispositif, c'est quand une personne sort de son logement citoyen et va dans son logement social personnel, et qu'elle détient tous ses documents, titre de séjour, livret de famille, propre à sa situation de réfugié. Logiquement, une fois que ces familles ont ça, elles doivent passer dans ce qu'on appelle le droit commun. Mais pour les rassurer, quand les familles restent dans la région où elles ont été accueillies, elles restent très souvent en lien très fort avec leur collectif. C'est plus difficile si une famille dit demain « je veux partir dans le nord de la France » parce que là, le collectif ne pourrait plus les suivre. Après, on est dans l'humain, on a tous créé des liens, on ne va pas vous dire « hop, c'est fini !»
تبقى امور انسانيه يعني ما علاقات انسانيه ما ممكن تقطعها يعني حيبقى العلاقات الانسانيه يعني حاضره
نروح على شمال فرنسا. أنا البيت اللي قاعدة فيه هلا بعد 15 بدهم يطلعوني منه، ماني حابة أتركه. كيف بدي أنا نروح على شمال فرنسا؟
il dit l'appartement dans lequel elle est en train d'habiter maintenant, même celui-là, elle veut pas le quitter. Alors comment elle va aller au nord de la France?
Alors, je pense que la plupart des familles sont au courant. Je m'en vais, je quitte mon travail à fin décembre. Par contre, j'ai la chance d'habiter dans le coin. Donc les contacts avec vous, je vais les garder.
Elle va faire, ils vont faire une opposition pour que tu partes.
Je voudrais aussi dire que dans toutes les familles là que j'ai connues, ils sont tous en train de nous remercier tout le temps, mais moi je voudrais aussi les remercier parce qu'ils nous apportent quelque chose de beau, de l'espoir.
Et vous aussi, vous leur donnez de l'espoir.
Voilà. J'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont donné confiance, qui m'ont fait partager leurs craintes, qui m'ont donné des bouts de leur vie. C'est un trésor inestimable. شكراً.
Avec Yousra et Mohamed, Samar et Zahir, Odile, Yann et les bénévoles du réseau d'IWA d'accueil des réfugiés, Cécile Porré-Goudfange, coordinatrice des couloirs humanitaires. Voix française, Delphine Metzer et Hicham Amekdouf. Traduction Hicham Amekdouf. Musique Ya Bradouane. Réalisation Caroline Fontana pour la bande sonore.
Mm-hmm.